Chapitre 22. Grand contentement. Bien que Nora fût une adorable créature, Agnès ne put s'empêcher de trouver un peu pénible, ce soir-là, son admission dans l'intimité de sa chambre à coucher, et ce ne fut pas sans faire un violent effort sur elle-même qu'elle parvint à sortir de ses propres pensées pour s'occuper de cette sœur improvisée. Mais, d'après les récits de Frédéric, la jeune fille connaissait Agnès de longue date. Elle savait dans quelle position elle se trouvait et n'avait qu'un désir, se faire pardonner l'importunité dont elle se sentait coupable. Nora était tendre, elle était expansive, elle ouvrit tout de suite son cœur à Agnès. « Quel bonheur, chère Agnès, que vous ne soyez pas tombée amoureuse de Frédéric! Que serais-je devenue si vous vous étiez éprise de lui? Car figurez-vous que je l'ai aimé presque aussitôt que je l'ai vu. Tout cela a été singulier. C'est au Théâtre italien, à Paris, que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je voyais bien qu'il me regardait presque incessamment et il me semblait que jamais, jamais, je n'avais vu encore un jeune homme aussi beau. À la sortie, il nous suivit jusqu'à notre voiture et depuis lors, je ne sais comment cela se fit, je n'ai plus fait un pas dans la rue sans le rencontrer. Puis voilà qu'un beau soir, nous nous sommes retrouvés chez un monsieur Dupont qui donne de si beaux concerts et qui reçoit beaucoup d'anglais. C'est là qu'il a fait la connaissance de papa, et depuis, il est venu nous voir tous les jours. De sorte qu'au bout de très peu de temps, il a été convenu que je serai sa femme, aussitôt notre retour en Angleterre. « Ma bonne Nora, je vous remercie, » reprit Agnès, qui, malgré toute sa préoccupation, avait écouté très attentivement ce rapide récit. « Je ne saurais vous dire combien tout ce que vous me dites me rend heureuse. »« Mais Agnès, je ne puis m'expliquer comment vous n'êtes pas devenue amoureuse de Frédéric, puisque lui l'était tellement de vous. »« Parce que je m'étais mise, juste à ce moment, à en aimer un autre, » répondit Agnès en riant. « Ah bien, voilà certes la chose la plus heureuse du monde. Frédéric le dit bien aussi maintenant. » Il m'a conté qu'il avait eu terriblement envie de se tuer quand vous l'avez refusé. Mais dès l'instant qu'il m'a vu, il s'est senti persuadé que je lui convenais bien mieux que vous. Et ceci est parfaitement vrai, j'en suis certaine, Nora, reprit Agnès en toute sincérité. Et après ce petit entretien, se pelotonnant chacune sur son oreiller, elles fermaient leurs beaux yeux et s'endormaient jusqu'au matin, après avoir rêvé l'une et l'autre à celui qu'elles aimaient. Le réveil fut peut-être bien pour elles quelque chose comme la continuation d'un rêve. Et quand Peggy, étant entrée dans la chambre, y eut fait briller la lumière du jour, il sembla pour chacune de ces belles créatures, en voyant sa compagne de lit, qu'elle contemplait sa propre image. Il était déjà tard. Aussi, Agnès ne fut pas longue à sa toilette. Et après avoir donné en toute hâte un baiser à Nora, elle la laissa aux soins de Peggy, se dépêchant d'arriver à la table du déjeuner, où elle finit par dire à la tante Betsy qu'elle attendait la visite du colonel Hubert vers 11 heures, ce qui fit la grande joie de cette dernière, et que, si elle n'y voyait pas de mal, elle aimerait bien pouvoir causer avec lui pendant quelques minutes, seule à seule. « Si je n'y vois pas de mal, comment, mon enfant ?» s'écria Miss Compton. « Mais j'ai toujours vu dans tous les ouvrages qui peignent les mœurs actuelles que les parties intéressées ont des entrevues en tête-à-tête et quelquefois jusqu'à 3 ou 4 par jour. Alors je puis aller immédiatement dans le petit salon du fond ?»« Dites, tante Betsy. » Et vous pourriez peut-être dire à William. Oui, oui, ma chère, je lui dirai ce qu'il faut. Mais mangez un peu, Agnès, ou je vous assure que vous ne serez pas en état de causer. Je suppose que c'est à cause de votre nouvelle sœur, sur votre père et sur tout le reste, que vous désirez parler au colonel. Il y a bien des choses, tante Betsy. Mais grand Dieu, on frappe à la porte de la rue. Ne sera-ce pas étrange que vous me l'envoyiez? Sans perdre un moment pour lui répondre, l'agile petite vieille, interceptant William au passage, lui donna l'ordre qu'elle méditait, et 2 minutes après, le colonel était introduit dans une chambre où l'heureuse mais rougissante Agnès était seule. En entrant, la démarche du colonel ressemblait à celle de toute personne qui traverse un salon. mais à mesure que diminuait la distance qui le séparait d'Agnès, son allure devenait infiniment plus rapide, car le colonel était en proie à une nerveuse agitation, et pour la première fois se permettant une caresse, il entourait la jeune fille de ses bras et la pressait sur son cœur. Sans faire aucun effort pour se dégager, Agnès laissait couler ses larmes sur le sein de son bien-aimé. « Agnès, vous m'aimez donc ! Enfin, enfin nos cœurs se sont rencontrés et rien jamais plus ne pourra les séparer. Mais, ma bien-aimée, il vous faudra pourtant me dire souvent que vous m'avez pardonné, car j'ai grand-peine à le croire, je vous assure. » « Que faut-il donc que je vous pardonne, Montaigu ?» dit Agnès en le regardant et en souriant à travers ses larmes. C'était la première fois que les lèvres de la jeune fille prononçaient ce nom de baptême. Jamais jusqu'ici d'autres oreilles que celles du colonel ne l'avaient entendu, et Agnès rougit en le prononçant. « Ah ! S'écria-t-il, Agnès, mon Agnès, il est donc bien vrai que vous m'avez pardonné ? Vous m'appelez Montaigu. « Comme c'est étrange » continua-t-il en la regardant avec passion. « Comment une chose aussi rebattue que notre propre nom, une chose qui nous est si familière, peut-elle revêtir dans de certaines conditions des proportions telles qu'elle fasse frémir tout notre être comme le contact d'une pile électrique ?» Et la forçant doucement à se rasseoir, il se plaçait à côté d'elle. « Asseyons-nous l'un près de l'autre, Agnès, et reprenons le passé sans nous rien dissimuler. » Et cependant, à quoi bon? Tout cela est si pénible. Il y a pourtant une chose bien certaine, c'est que sans mes observations, Frédéric déposait à vos pieds ses 7 000 livres sterling de rente avec sa personne, et qui sait si... » Une ombre de mélancolie sembla obscurcir encore une fois la noble physionomie du colonel Hubert. Agnès ne put supporter cette vue, et fixant ses yeux sur lui, elle dit... Montaigu, répondez avec sincérité à cette seule question. Quel est le sentiment qui domine en vous? Est-ce la satisfaction de vous dire que vous avez exercé sur Frédéric une influence aussi grande, ou bien la peine où vous plonge l'incertitude qui vous tient sur la manière dont sa demande eût été accueillie? Je n'éprouve aucune satisfaction à penser que j'exerce une influence sur n'importe qui, si ce n'est sur vous. Répondit-il gravement. Voilà qui m'enchante, Montaigu, car autrement vous vous seriez cruellement trompé. Incrédule que vous êtes, sans vos doutes insensés, jamais vous ne l'auriez su, mais avant de partir pour le continent, Frédéric Stephenson m'avait offert sa main. Et vous l'aviez refusé, Agnès? Et je l'avais refusé, Hubert. Oh, si j'avais su cela! « Que de souffrances m'eussent été épargnées !» s'écria le colonel. « Vous ne savez pas, vous ne pouvez savoir tout ce que j'ai souffert, Agnès. Hier encore, dans cette même chambre, vous ne pouviez deviner la cause de la gêne terrible qui nous séparait. » « Je n'avais que faire de la deviner, » répondit Agnès en riant. « Vous me l'avez assez clairement expliqué. » « Oh, mais alors, pourquoi n'avoir pas immédiatement délivré mon cœur de ce terrible poids ? Ne pouviez-vous donc comprendre à quel point il me faisait souffrir ?»« Ah, pourquoi ? » dit Agnès en se levant. « Je vais vous le dire. Restez là où vous êtes. C'était là que j'étais assise. Et dites, laissez-moi vous avouer, colonel, à quoi je vous répondrai de cette manière. » Et, levant sa main, de façon à imposer silence au colonel, elle ajouta, en contrefaisant son air impatient, « Ne m'avouez rien, Miss Willoughby. » Puis vous avez continué à m'expliquer que vous veniez d'écrire à Frédéric pour le rappeler, et quand vous avez vu mon effroi à cette révélation, vous avez insisté, disant que vous étiez tout prêt à recommencer. C'est alors que ma tante est arrivée et il a fallu nous séparer. À qui donc s'en prendre si je ne vous ai pas tout dit ? À moi, Agnès, à moi ! Et hélas, je n'ai pas été le seul à en souffrir. Mais vous m'avez pardonné, que ceci soit oublié pour jamais. Il y a pourtant encore un point sur lequel je voudrais bien vous faire quelques questions. À celle-là, j'espère, vous voudrez bien répondre, Agnès. Oui, répliqua-t-elle gaiement, pourvu que vous ne leviez pas votre bras comme ceci pour m'empêcher de parler juste au moment où je vais vous répondre. Je ferai de mon mieux, répondit-il, et pour plus de sûreté, je vais placer le bras coupable comme ceci. En disant cela, il passait son bras autour de la taille d'Agnès. Et maintenant, ma bien-aimée, dites-moi pourquoi vous n'avez pas voulu accepter la proposition de Frédéric Stephenson. Seriez-vous assez bon, colonel, pour me dire pourquoi il ne vous est jamais arrivé de demander la main d'aucune autre personne que moi? Parce que je vous aimais, parce que je n'ai jamais aimé que vous. Eh bien, parce que je vous aimais, colonel, parce que je n'ai jamais aimé que vous. Y aurait-il un écho dans cette chambre? Dit le colonel Hubert. Non, monsieur, répliqua Agnès, c'est tout simplement ma réponse à votre question. Ainsi, tandis que je me préoccupais de trouver les raisons les plus irréfutables pour prouver qu'un honnête mortel ne pouvait épouser la nièce de Mistress Barnabé, la jeune, la charmante Agnès Willoughby commençait à m'aimer. Oui, c'était ainsi, dit Agnès avec une certaine tristesse. Les impressions fausses nous ont causé tant de souffrances qu'il ne serait pas loyal à moi, pour sauvegarder une susceptibilité toute féminine, de vous cacher la vérité. Et pourtant, Hubert, c'est tout au plus généreux de votre part de m'amener à vous dire cela. Oh, ne parlez pas ainsi, répliqua-t-il. Ne vous méprenez pas sur la source d'où proviennent mes questions. Songez à tout ce que j'ai souffert. Songez que mon cœur a soif de l'assurance de votre amour. Ce qui suffirait à un autre ne saurait me suffire à moi. Je suis si vieux pour vous. Que voulez-vous, Montaigu ? C'est plus fort que moi, je n'ai pas pu m'empêcher de vous aimer. Le jour où, sur la colline de Windmill, vous m'avez sauvé des griffes du major Allen, le jour où vous avez eu la bonté d'applaudir à mon chant, et encore, tant d'autres fois où il eût été sage, à moi peut-être, de me souvenir que j'étais bien jeune pour vous, ça a été plus fort que ma volonté. Le colonel Hubert se laissa probablement convaincre à la fin, car l'entretien fut long. Mais, avant qu'il ne fût terminé, le colonel était parvenu à faire pénétrer dans l'esprit d'Agnès la douce croyance que depuis le soir du bal de Clifton, son image ne l'avait jamais quittée. Avec la plus grande humilité, l'étonnement le plus sincère et le plus grand désir d'y croire, Agnès écoutait tout ce qu'il lui disait. Puis, soudain, se rappelant Shakespeare, elle s'écria « Et quand même un ange fut venu jusqu'à moi me raconter cela, je n'aurais jamais cru que les lèvres d'Hubert. »